On se disait, mais c'est pas possible. Ça, c'est pas du tout fou, ce qu'on mange en Europe. En Europe, c'est autre chose. C'est une espèce de pâte qui ressemble un peu à la feta, avec une texture qui est pas superbe. Et là-bas, au Japon, c'était comme on mangeait des nuages. C'est juste extraordinaire.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Au premier abord, le tofu a tout pour connoter une alimentation triste et morne. Blanc, sans forme caractéristique et souvent fade, le tofu que l'on trouve généralement vendu sous vide dans la grande distribution ne fait pas trop rêver. Et pourtant, cette préparation, en version artisanale, est absolument extraordinaire. Le tofu est un aliment versatile que l'on aurait tort de réduire à une seule utilisation culinaire. Ferme, le tofu momen, trouve toute sa place dans un plat cuisiné. Soyeux, le tofu kinugoshi, se déguste frais ou s'insère à merveille dans les desserts. Non pressé, le tofu oboro agrémente délicatement une soupe. Quant au yuba, la perle du tofu, qu'on appelle également peau de tofu, il s'agit d'un mets d'exception que l'on obtient en faisant simplement bouillir du lait de soja. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas un tofu mais des tofu. Dans le sud-est de la France, en plein cœur du Vaucluse, un certain Raoul Montero a fait construire juste à côté de sa maison un atelier pour produire du tofu artisanal, selon la méthode traditionnelle japonaise. Pour ce passionné qui a travaillé dans une ONG dans une précédente vie, faire du tofu est un acte engagé. Faire du tofu, et surtout du bon tofu, c'est participer à la création de bonnes alternatives à la viande. 5 fois moins gourmand en eau, le tofu a besoin de 15 fois moins de surface agricole et produit 10 fois moins de CO2 que la viande de bœuf, par exemple. Le tofu est donc une protéine végétale qui a l'avantage de pouvoir être locale et respectueuse de l'environnement. Celui de Raoul, par exemple, est réalisé à partir de soja bio cultivé près de Manosque, à seulement 1 heure de route de son atelier. En France, on utilise de plus en plus de soja pour fixer l'azote dans les terres et assainir les sols fatigués par la monoculture. Et si l'on en profitait pour faire plus de tofu, partout, aux quatre coins du pays? Pour commencer notre entretien, assis sur le perron de sa maison face à son beau jardin, j'ai demandé à Raoul comment cet aliment est entré dans sa vie. Parce que j'imaginais bien qu'on ne se lève pas un beau matin en se disant qu'on va devenir producteur de tofu.
En fait, l'histoire du tofu, c'est d'abord une blague. Parce qu'on est parti vivre au Japon avec mon compagnon pendant 5 ans à peu près. Là-bas, on avait goûté aux merveilles qui sont faites par les artisans japonais. On s'était dit, quand on rentrera à Paris, on fera du tofu. Mais c'était vraiment une blague. Et quand enfin on retourne à Paris, l'envie de quitter la ville était plus forte que tout. Et donc, on a commencé à imaginer quelles étaient les pistes possibles de travail. Mon travail d'origine, c'était la communication. J'étais responsable de la com d'une ONG à Paris. Et trouver un poste similaire à la campagne où on avait envie de vivre, c'était très difficile. Donc, la blague est devenue une réalité parce que c'était d'une part éthiquement ce qu'on avait envie de faire. C'était envie de faire quelque chose qui serve à quelque chose. Et d'autre part, économiquement soutenable. Donc on avait les deux et on avait bingo.
Et pourquoi le tofu plus précisément? Pourquoi pas un autre ingrédient, une autre préparation? Qu'est-ce qui fait que le tofu en particulier est une préparation qui te plaît?
Parce que justement, il y avait au Japon telle variété des produits avec une qualité complètement différente à celle qu'on trouve aujourd'hui ici en France, parce que la plupart sont industriels. Et on se disait, mais c'est pas possible, ça c'est pas du tofu, ce qu'on mange en Europe. En Europe, c'est autre chose, c'est une espèce de pâte qui ressemble un peu à la feta, avec une texture qui n'est pas superbe. Et là-bas, au Japon, c'était comme on mangeait des nuages. C'est juste extraordinaire. Et on s'était dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et l'autre chose aussi, c'était surtout parce que on a bien conscience que manger aujourd'hui de la viande est nuisible, pour la planète surtout. En tout cas, dans les quantités qu'on a l'habitude de manger en Europe. Donc on s'était dit, essayons de faire quelque chose qui va être agréable pour les personnes à manger et qui en plus va contribuer avec la lutte contre le réchauffement climatique, des engagements qui sont personnels pour que les choses aillent un petit peu mieux dans cette planète un peu folle.
Alors tu le dis sur ton site internet, le tofu est bon pour la santé, pour la planète aussi. Est-ce que tu peux nous parler de la production de ton tofu en particulier, donc une production qui s'inscrit vraiment dans une pratique locale ?
Complètement. C'est en fait, c'est justement le mot local qui a un peu défini le tofu que je fais. Je travaille déjà avec des graines de soja qui sont cultivées à Manosque, donc Manosque à 70 km de l'atelier. Et puis après, il est vendu uniquement autour de l'atelier. C'est-à-dire que je ne vais pas aller vendre du tofu à Paris ou ailleurs parce que ça n'a pas d'intérêt. En fait, je souhaite que ça soit un produit local. Et tous les autres ingrédients viennent aussi de la région. C'est une région tellement riche qu'on a... aujourd'hui, je fais du tofu au romarin, qui est du coin, bien sûr. Je suis en train de travailler sur du tofu au safran, qui pousse juste à côté aussi. Il y a une recette qui va sortir pour la fin de l'année, donc pour les fêtes à la truffe. Et là, dans quelques semaines, il va y avoir le tofu aux olives. Et j'ai réussi même à trouver du bois, des copeaux de bois qui viennent de la forêt des cèdres de Beaulieu, qui est un lieu historique et particulier du Luberon. Et avec ça, je fais mon fumage. Donc même le tofu fumé que je fais vient à l'empreinte locale bien présente.
Et comment ça se fabrique alors le tofu ?
Donc le tofu, il est super simple à faire. En fait, il y a juste trois ingrédients. Il y a le soja. Le sel de Nigari, qui est un sel comme le sel de table, mais très riche en magnésium, et de l'eau. Il y a juste ça, de l'eau, du sel et du soja. Donc on doit préparer d'abord le lait de soja, et ça on le prépare avec des graines de soja qui sont gonflées avec de l'eau. Donc ils ont passé toute la nuit à gonfler. Je le passe dans mon moulin, et de ça je vais extraire le lait de soja. Et c'est ce lait de soja qu'après je précipite avec le sel de Nigari. Précipiter, ça veut dire le convertir en fromage presque. En fait, c'est exactement la même chose qu'on fait quand on a le lait des vaches. On rajoute une pressure et ça va faire une pâte. Et voilà, qui coagule. Et donc, une fois qu'on a cette matière qui est comme de la ricotta, on va la presser. Donc, on va la mettre dans des moules. Et ça, on le presse. Et c'est une fois... Après un certain temps, on a le tofu qui est ferme et on va pouvoir le découper et puis après le conditionner pour la vente.
Tu dis que le tofu, c'est un produit phare du XXIe siècle, notamment pour sa versatilité. Beaucoup de gens, pourtant, quand ils pensent au tofu, vont avoir cette image d'un ingrédient un peu fade. Qu'est-ce que tu dirais pour défendre le tofu ?
Le tofu, c'est un ingrédient caméléon et qui peut être... cuisiné à la façon orientale, c'est de là où ça vient. Donc il y a plein de recettes super savoureuses et exotiques, originales, qu'on n'a pas l'habitude de manger, qui sont très simples à faire. Donc ça, c'est l'esprit un peu découverte du tofu. Mais il y a aussi toutes les préparations qu'on peut faire avec les tofu en utilisant des recettes classiques, comme des choses super simples comme une sauce bolognaise, par exemple. On peut mettre à la place de la viande du tofu et c'est simple et très, très bon. La particularité aussi de mon tofu, c'est qu'un tofu tendre. Donc, c'est un tofu à la japonaise, à la tradition japonaise. Donc, on peut même déguster, manger directement cru, sans devoir le cuisiner ou le préparer. Donc, c'est très simple à manger, très simple à préparer et surtout très bon.
En fait, quand les gens disent que le tofu n'a pas de goût, c'est surtout qu'ils ont en tête le tofu un peu punition, peut-être le tofu voilà, qui n'est pas forcément préparé dans les règles de l'art, un peu industriel, pas spécialement accommodé. Et d'ailleurs, quand on parle de tofu, il y a plusieurs sortes de tofu, il y a une vraie typologie. Est-ce que tu peux nous en parler entre le tofu soyeux, le tofu plus ferme ? Quelles sont ces différences-là qu'on peut noter ?
Oui, il y a... en Orient, en fait, en Chine, au Japon, en Corée, il y a autant de tofu que des fromages un peu en France. Donc, et avec ça, il y a des recettes aussi très différentes. Donc, en gros, il y a des tofu qui sont pressés. C'est le type de tofu qu'on mange ici en France, qui sont un peu fermes, avec lesquels on peut faire des préparations, soit par exemple mijotées ou poêlées, ou bien même cru, comme par exemple quand il s'agit d'un tofu tendre, on peut le manger directement cru. Et il y a après d'autres tofu qui sont des tofu non pressés, comme l'oboro par exemple. C'est un tofu qui est comme de la ricotta, et qui peut être mélangé avec, qui peut être mangé froid, chaud, sucré, salé. Après, il y a des tofu qui se font fermenter, donc ça c'est plutôt du côté de la Chine. Il y a un tofu qu'on appelle les tofu puants, et qui a carrément des poils un peu comme le roquefort, mais ça sent très très fort. Oula, il y a vraiment beaucoup de variétés différentes de tofu, et surtout des façons de le préparer. Donc
le tofu, donc, c'est vraiment plusieurs étapes de préparation. En amont et en aval du tofu, qu'on a un peu tous en tête, le tofu plus ferme, il y a donc le yuba, il y a ce que tu expliquais aussi à l'instant, la ricotta plus de tofu. Est-ce que tu peux nous en dire plus, alors, à quel moment on se situe dans la préparation du tofu traditionnel?
Oui. Donc, quand je fais le lait de soja, donc ça c'est le produit de base, il faut qu'il soit chaud. Et en fonction de la température à laquelle on chauffe ce lait de soja, la précipitation va se faire d'une manière différente. Donc, par exemple, quand on fait du lait de soja qui est très chaud, en surface de ce lait de soja, il va se former une pellicule, une espèce de crème de tofu qui ressemble au goût un peu à la burrata. Ça, c'est le yuba. Et au Japon, c'est un mets d'exception. En fait, c'est un mets qui est vraiment très, très bon, et qu'on mange dans les occasions spéciales. Après, une fois que le lait de soja, pardon, commence à refroidir, on rajoute le nigiri. Et là, il va avoir, par exemple, l'oboro, donc le tofu non pressé. Et puis après, une fois que ce tofu a bien coagulé, qui est bien ferme, qu'on va mettre dans la presse, en fonction de la manière comme on le presse ou pas, il va y avoir différentes sortes de tofu. Il y a aussi le tofu soyeux, qui est un tofu qui n'est pas pressé, mais qui est coagulé froid, avec différents types de produits. Celui qu'on mange au Japon, c'est fait avec un dérivé du miel, et qui a une qualité un peu élastique. C'est très très chouette.
Oui, le yuba que tu nous as fait goûter tout à l'heure m'a tout de suite retransporté à mon dernier voyage au Japon, où j'avais eu la chance d'en goûter dans une petite coupelle lors d'une soirée dans un izakaya, donc avec ces repas à rallonge où il y a plein de petites coupelles et d'assiettes avec des mets très délicats qui sont servis. Et toi, donc, tu nous as servi ce yuba que tu as préparé, vraiment absolument exquis. Tu l'as juste donc accommodé avec quelques feuilles de shiso, de la sauce soja, un petit peu de graines de sésame et aussi de l'huile de sésame, c'est bien ça? Est-ce que c'est une bonne façon de l'accommoder? Est-ce que tu as d'autres idées pour celles et ceux qui auraient la chance d'avoir du yuba?
Les yuba, le mieux, c'est le manger cru. Et donc, cette manière-là de l'accommoder, c'est la façon classique. On peut changer à la place des feuilles de shiso, on peut aussi mettre soit de la ciboulette, soit du gingembre râpé. Et sinon, après, on peut aussi le manger un petit peu chaud et le manger avec des petits légumes sautés. Là, par exemple, c'est la saison des pois gourmands. Donc, on fait revenir des petits pois gourmands avec de l'huile de sésame, et puis on sert ça juste à côté avec du vinaigre ou un peu de sauce soja, et c'est délicieux.
Oui, ça a l'air dit comme ça. Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots aussi à propos de ton atelier? Parce que là, tu nous as montré cet atelier que tu as aménagé toi-même, qui est juste à côté de ta maison, entouré des vignes. On est vraiment dans un lieu magnifique et très reposant. Comment ça a été pour toi de construire ce lieu, d'imaginer ce lieu? De quoi on a besoin dans un atelier de préparation de tofu?
En fait, déjà, j'ai commencé à travailler dans un atelier de tofu au Japon. c'était notre voisin, c'était là où j'ai acheté mon tofu, du côté de Ogikubo à Tokyo. Et donc, j'avais vu déjà un petit peu l'aménagement de leur espace. C'est un peu comme une boulangerie, en fait, ou comme un fromager. Et il est au cœur du quartier et dans cet espace-là, il prépare son tofu frais tous les jours. Et donc, c'était un petit peu cet esprit-là que je voulais avoir dans mon atelier. Après, il fallait aussi l'adapter aux normes très strictes d'hygiène qui sont en vigueur en Europe. Donc, pour cela, j'ai travaillé aussi à Paris dans un restaurant qui faisait leur propre tofu. Tofuya s'appelait. Et donc, eux aussi, ils avaient aménagé leur espace en fonction des différentes phases de préparation. Donc, on commence par broyer la graine et puis après, on la précipite et puis après, on fait les conditionnements. Donc, toutes ces étapes ont été respectées et c'est de cette manière-là que j'ai imaginé mon atelier. Mais il fallait surtout que ça soit très haut des plafonds parce que il y a beaucoup de vapeur qui se dégage quand on chauffe le lait de soja, qu'on met à refroidir le lait de soja, quand le tofu est dans la presse et qui dégage énormément de chaleur. Et en sachant qu'on est en province, dans les Luberon, il fait très très chaud et donc pour que cette chaleur se dégage, le plafond de l'atelier est très haut. Et évidemment aussi, il fallait faire des ouvertures. Donc c'est pour ça que j'ai aussi plein de fenêtres un peu de partout que je ouvre avec des grandes moustiquaires pour éviter que les mouches et les moustiques rentrent dans les tofu. Ça serait malheureux.
Oui, j'imagine. Il faut faire aussi avec l'existant, les insectes avec qui tu partages évidemment ce petit coin de paradis. Ton matériel aussi, en partie, vient de Taïwan. J'imagine que c'était important d'avoir du bon matériel et que il n'y a pas forcément d'équivalent européen si simple à trouver.
Non. En fait, l'atelier aussi, il a été construit dans l'idée de pouvoir avoir à chaque fois des produits qui soient locaux. Donc, la marmite vient d'Italie, parce que c'est des gens qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Donc, c'est européen, construit en Europe. Et c'est pareil pour le matériel de la mise sous vide qui est hollandais, qui sont très réputés pour leurs produits. Mais pour ce qui est de la presse du tofu et du broyeur des graines de soja, ça n'existe qu'en Asie. Les japonaises, ils étaient très chouettes, mais très chères. Donc, pour un investissement initial, c'était au-delà de mes capacités. Et les chinoises, ils étaient très peu chères, mais aussi peu résistantes. J'ai une amie à Tours, Yaming, qui a aussi un atelier de tofu qui s'appelle les Chats des Champs. Et ces machines sont tombées en panne 6 mois après l'ouverture, donc elle était très très malheureuse. Et donc j'ai appris un peu avec l'expérience de Yaming. Et donc j'ai acheté entre les deux. Pas trop cher, mais pas non plus donné comme les chinoises. Donc j'ai acheté au Taïwan et c'est du matériel qui est robuste, qui j'espère va pouvoir durer des années.
Et peux-tu aussi partager avec nous une recette de tofu, une recette qui a pour ingrédients, dans les ingrédients principaux du tofu, peut-être la recette séduction pour les gens qui n'ont pas l'habitude de cuisiner ça et la recette qui arrive à les convaincre en fait que le tofu c'est délicieux tout simplement.
En fait, je suis invité dans les boutiques où mon tofu est vendu et généralement, je fais 3 recettes. Donc, je vais partager les 3 recettes. Et donc, la première recette, c'est super simple parce que c'est justement la manière comme traditionnelle de faire de manger le tofu au Japon. C'est juste des cubes de tofu et frais qui vont être juste assaisonnés avec un peu d'huile de sésame, un peu de sauce soja et éventuellement du gingembre râpé ou de la ciboulette ou des petites feuilles, des shiso ou des petits aromates. Mais ça va très bien aussi avec de l'huile d'olive. Hein. Bien sûr, je rajoute un petit peu des graines de sésame parce que ça donne un peu de croquant et c'est très bon. En fonction de la saison, je rajoute quelques fleurs aussi. Ça peut être de la bourrache ou ça peut être aussi des fleurs de sauge. C'est très bon aussi. Donc ça, c'est la recette numéro 1. La numéro 2, c'est une recette pour les personnes qui disent « je n'aime pas ça ». Et donc, on mange du tofu sans se rendre compte parce qu'on ne le voit pas, le tofu. Il s'agit d'un spread que je mets sur des tartines. Dans un mixeur, on met du tofu, ça peut être du romarin ou du fumé ou du nature, des graines de cacahuètes grillées et salées, de l'huile d'olive, et puis ce que vous avez sous la main. Dernièrement, j'ai fait avec du basilic, mais ça pourrait être par exemple du gingembre, ça pourrait être du je sais pas, du curcuma frais ou de la moutarde, ce que vous voulez. Et avec ça, vous allez faire une crème pour vos tartines et faire l'apéro avec, et c'est super bon. Et vous voyez qu'il y a du feu. Et puis la recette numéro 3, c'est des petits cubes du tofu qui vont être sautés à la poêle avec des champignons. Ça peut être des champignons de Paris, ça peut être des pleurotes, ça peut être des shiitake, ça c'est le top. Et donc on va faire venir d'abord le champignon avec de l'huile d'olive et un peu d'ail. On met des côtés et puis après on fait sauter délicatement les cubes de tofu juste pour les dorer.
Ça a l'air super bon. J'aime beaucoup ces trois recettes qui, j'ai l'impression, incarnent à chaque fois un visage intéressant du tofu. La première, c'est vraiment le tofu pour la texture et on accommode avec peu de choses, on sublime juste. La deuxième, c'est, oui, comme tu dis, hop, le tofu qu'on va cacher, mais qui va quand même être là dans la texture aussi, finalement. Ça va donner une petite épaisseur, le côté tartinable. Et la troisième, où là, on le met plus au centre, mais on l'emmène ailleurs encore, ce tofu, puisqu'on le fait sauter. Donc, c'est génial. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le tofu, c'est que j'ai l'impression que c'est un aliment à la fois humble et fort. Humble parce que les trois recettes que tu viens de donner le montrent. Il peut se faire oublier aussi. Il peut être juste un support à des aromates. Voilà. Mais d'un autre côté, il est aussi très fort parce qu'il a une force tranquille, en fait. Il est là, il existe. Et puis, et dans le cas de ton tofu, on a pu le voir avec la dégustation tout à l'heure. Je trouve qu'il avait un petit goût de noisette aussi. Ou si on est prête à ouvrir un peu ses écoutilles, ses papilles, on peut se rendre compte aussi de la subtilité de ce goût.
C'est justement la différence entre le tofu qui est fait de manière industrielle, dans lequel le goût il est presque neutre. En fait, il n'y a rien, il y a juste un support qui est de la protéine. Et c'est pour ça que les gens ils le consomment, parce que c'est vrai que rien que ça, c'est une bonne chose de pouvoir remplacer la protéine animale par de la protéine végétale. Mais quand on mange un tofu artisanal, c'est autre chose qui est présente. Et il y a une texture qui peut être très tendre. C'est comme si on mangeait un nuage. On met les dents et puis il y a quelque chose qui explose à l'intérieur de la bouche. Et il y a ces goûts un peu des noisettes ou de riz au lait. Et c'est là où le produit, quand il est artisanal, on arrive à savoir qu'est-ce qui est derrière.
Est-ce que, Raoul, à ta connaissance, il y a beaucoup de producteurs et de productrices de tofu en France ?
Justement, j'ai parlé tout à l'heure de Yaming, c'est elle qui m'a entre autres formé, ça fait partie de mes maîtres tofu, et c'est pour ça que j'arrive à faire aujourd'hui du bon tofu. Donc Yaming, elle est du côté des Tours, et avec elle, on a eu l'idée de créer une espèce de regroupements, d'associations, de petits producteurs de tofu, parce que c'est quelque chose qui a intérêt à être plus connu, en fait. Savoir qu'on peut manger du tofu artisanal à droite, à gauche en France, c'est vrai que ce n'est pas de partout, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus possible. Donc on connaît un certain nombre de producteurs et on voulait faire un site internet qui parle de ces petits producteurs de tofu. Et j'espère que ça sera bientôt en ligne sur Internet. Et donc, je sais qu'il y en a du côté de Strasbourg. Il y a une fille qui vient de faire une formation chez moi qui est du côté de Bure, donc en Moselle. Il y a un couple de jeunes qui est du côté de La Rochelle. Et il y a un monsieur qui est assez reconnu dans le métier, mais qui s'adresse plutôt à une clientèle asiatique, qui est au Mans. Donc Yaming qui est à Tours. Et puis il y a Lady Tofu qui est à Montpellier. Et voilà, ça c'est un peu les gens qu'on connaît, avec qui on parle, avec qui on échange justement sur la question des machines, sur la question des recettes. Voilà, c'est aussi une manière d'échanger et se sentir un peu ensemble face à des gens qui font du tofu, qui sont présents un peu partout et qui uniformisent un peu le goût du tofu. C'est un peu dommage.
Oui, donc vous avez tout intérêt à avoir ce réseau en fait solidaire de producteurs et productrices de tofu artisanal, parce que j'imagine qu'en plus le tofu, là où on peut avoir du soja, on peut faire du tofu, quoi. Et du soja, finalement, on peut en avoir un peu partout en France.
Oui, en fait, il y a une production en France qui est assez importante. La plupart des producteurs de soja est dans le sud-ouest, mais il y en a quelques producteurs, donc du coup, ici, juste à côté, à Manosque. Il y a un petit peu aussi en Rhône-Alpes, donc pas trop loin entre la Drôme, et puis un petit peu plus au nord aussi, du côté de Dijon aussi un peu. Et il y a, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est super intéressant l'histoire de la culture de soja, c'est que le soja fixe l'azote. Donc, quand il y a un sol qui est épuisé par la culture, par la monoculture, surtout de céréales, le sol s'épuise. Et pour pouvoir l'enrichir, les gens aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'en rotation des cultures, on met du soja. Et donc, par exemple, on peut faire une année des blés et puis l'année suivante, on va faire du soja et puis on continue à faire du blé. Et donc, c'est aussi super bien pour la terre même. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans les mœurs des céréaliers, surtout les bio, bien sûr. Et donc, du coup, on peut trouver aujourd'hui un peu à droite, à gauche du soja bio. Ah, j'ai oublié de parler d'Elodie aussi, qui va bientôt ouvrir du côté de Paris.
Donc finalement, pour reprendre ce que tu disais sur le tofu qui est bon pour la santé, bon pour la planète, jusqu'au bout, on peut dire que c'est une production vertueuse et éthique, puisqu'en plus, elle se base sur une culture de soja elle-même intéressante pour les sols.
Complètement, ouais.
Je trouve hyper intéressant ce que dit Raoul à propos des bonnes pratiques à essaimer dans la production de tofu. Cette solidarité qu'il y a entre producteurs et productrices de tofu montre à quel point une alimentation saine et durable a tout à gagner à s'inscrire dans un réseau riche, dense et décentralisé. Merci à Raoul Montero de m'avoir donné de son temps pour parler de tofu et merci à mes copines Marie et Betty, duo de chefs talentueuses réunies sous le nom de Condiment, Condiment avec un K, de me l'avoir présenté. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Donia Wahada. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.